et Alexis Sanson. Que Québec se lève.
La chronique historique de François Thérien. Voici le studieux Sieur de Thérien.
Ben oui, gardons ça.
On n'est pas dimanche?
Non! Rassurez-vous! Non, mais à toutes les fois qu'on fait ça, par exemple, c'était l'Action de grâce il y a deux semaines, puis là, souvent, quand c'est des longs week-ends, nous autres, on fait une émission de plus le lundi, tu sais. Puis, très régulièrement, quand on fait une émission le lundi, là, moi, ça fait quatre ans et demi, je suis sur cette émission-là. À toutes les fois, l'émission commence à 7h, puis le monde, ils sont comme, hein? Coudonc, là,
c'est qui, lui?
C'est qui se passe?
On est qu'un jour aujourd'hui, là, puis là, il est quelle heure, là? Puis tout le monde est bien fourré parce que, par exemple, au lieu d'écouter Dupont, il écoute nous autres.
Mais là, il y en a qui capotent, là, ils sont là. Hey, déjà dimanche, je crée mon travail demain, François est là.
C'est
ça. Ça n'a pas de bon sens.
Non.
Je me faisais klaxonner en m'en venant. Qu'est-ce que tu fais là, toi?
Dans c'est ça le chez vous! Ah, oh, François, ça va bien?
Ça va très bien, vous autres?
Oui, ça va super bien. Good. Ça fait quand même une couple de fois que tu nous parles de ta chronique sur les marchands juifs de Québec. Je sais que tu as ça dans le collimateur depuis un petit bout de temps, puis je pense que tu avais hâte de faire cette chronique-là.
Oui, vraiment. L'idée, je l'ai eue quand Marcel Adams est mort. Marcel Adams, c'était le concepteur des galeries de la capitale. Oui. Il est mort au mois d'août. Il avait 100 ans. Son histoire est incroyable. Puis lui, c'est un juif qui a immigré ici. Puis, il y en a d'autres. Alors, je me suis dit, je vais faire une chronique là-dessus. Là. Il y en a deux, là, dans le fond. Puis, la chronique va surtout porter sur ces deux-là, Marcel Adams et, évidemment, Maurice Polak.
Je pensais que son prénom, c'était Pavillon, lui.
Pavillon non, Maurice. C'est Maurice. Il est plus connu sous le nom de Pavillon, mais c'est Maurice Polak.
Mais tu vois, ton réflexe trahit ton âge, parce que avant d'être un Pavillon, c'était un magasin.
Ouais.
Ah ouais, j'ai pas connu le magasin.
Pour les plus vieux, là, Polak, c'était un magasin rayon, là,
Place de vêtements. Place de la Cité, entre les deux centres d'achat, c'était un magasin Polak.
En fait, ça s'appelait Place Bellecour dans ce temps-là. Quand il y avait le Polak.
En fait, encore, en avant, c'est Place Bellecour, en arrière,
c'est Place de la Cité.
Parlez-vous du Chichetao que vous autres, là.
Alors, donc, les marchands juifs de Québec, on va commencer par parler par l'immigration juive ici en Nouvelle-France et au Québec qui se fait tardivement. Parce qu'à l'époque de la Nouvelle-France, les lois françaises sont très restrictives pour les juifs. Puis, dans le fond, là, dans la conception de la compagnie Les Cent Associés, là, dans les années 1600, l'immigration juive était interdite. Elle était interdite. Il n'y avait pas le droit, les Juifs, de venir ici. Alors, il va falloir attendre les années après la conquête pour voir une immigration juive digne de ce nom au Canada, surtout à Montréal, parce que ceux qui s'établissent à Québec sont quand même peu nombreux. Puis, ce sont les troubles en Russie. Au début du 20e siècle, là, la révolution russe, il y en a eu un épisode vers la fin des années 1800, début des années 1900.
Ouais.
Puis là, les Juifs ont été persécutés après ça, puis ils sont envenus en masse en Amérique du Nord, dont au Canada. Et Maurice Polak fait partie de cette immigration massive du début des années 1900. Lui, il était originaire de la région de Kiev, en Ukraine. Il arrive à Québec en 1902. Il a 17 ans seulement. Il a pas une scène, là. Il a rien dans ses poches. Puis, il a changé son nom quand il est arrivé ici, lui, parce que son vrai nom, c'était Konstantinovski ou Ski. Puis, Polak, c'était le nom de sa mère. Alors là, il a vu qu'à Québec, avec un nom comme Konstantinovski, pardon, répétez. Il a dit Polak, ça va être plus simple. Alors, il a pris le nom de Maurice Polak. Donc, il avait pas un sou quand il est arrivé ici. Puis, il a été vendeur itinérant pendant 4 ans avant d'amasser assez d'argent pour ouvrir un petit magasin de vêtements pour hommes sur la rue Saint-Joseph. Ces Juifs-là qui venaient ici, ils faisaient beaucoup ça. On les appelait les pédeleurs. Maintenant, c'est un thème qui est péjoratif quand on parle d'un pédeleur.
Ouais.
Mais un pédeleur, c'est un vendeur itinérant. Puis ces gens-là, c'est ça qu'ils faisaient dans leur pays d'origine là, à travers l'Europe. Ils partaient puis ils vendaient des choses aux gens dans des régions plus éloignées. Puis au Québec, ça se faisait très peu. Fait qu'eux autres, quand ils ont vu ça, ils ont vu le marché. Alors, Maurice Polak, Marcel Adam va faire la même chose, vous allez voir.
C'est drôle parce que mes parents m'ont déjà raconté que quand ils étaient à l'école, on leur apprenait, tu sais, les bons mots de vocabulaire puis les bonnes façons de nommer les choses. Par exemple, tu sais, un vendeur itinérant, il fallait appeler ça un colporteur et non pas un pédeleur de marchandises sèches.
Ben, c'est ça. Ben, voyez-vous.
Fait qu'évidemment, mais tu sais, eux autres, ils étaient jeunes et puis personne n'avait jamais appelé ça un pédeleur de marchandises sèches. Mm-hmm. Fait qu'ils ont commencé à appeler ça un pédeleur de marchandises sèche à cause de l'école, il leur enseignait de pas dire ça.
Il disait beaucoup ça, pédeleur. Lui, d'ailleurs, Polak, c'est surtout en Beauce. Là, son itinéraire l'amenait souvent en Beauce. C'est ça, exactement. Puis, donc, en 1906, il ouvre son magasin sur la rue Saint-Joseph. Puis, progressivement, ce commerce-là gagne en popularité. Il s'agrandit d'année en année. Il va ajouter un rayon pour les femmes et les enfants à un moment donné qui va être géré par sa femme. C'est une entreprise familiale, Polak, là, vraiment. Mais surtout, M. Polak innove en mettant fin au marchandage entre clients et vendeurs. vendeurs.
Ah, en plus de bargain.
Non, c'est ça, en instaurant des prix fixes aux items qu'ils vendaient, parce qu'à cette époque-là, c'était commun. Tu arrivais dans le magasin, ouais, comment cette chemise-là? Ouais, là, ça négociait. Puis toi, tu pouvais sortir avec la chemise à 10$. Puis moi, j'étais moins négociateur, il me la laissait à 15$.
Hey, ça, c'était la belle époque, pareil.
Mais c'était un deal.
Ouais, c'était un deal.
Un deal à 15, là.
T'avais un méchant deal. Mais
parce que t'es un chum.
Ouais, c'est ça. Jusqu'à temps que t'apprennes que l'autre était plus chum que toi, finalement, là, avec son 10$. Puis lui, contrairement à la grande majorité, là, M. Pollack, ses affaires vont prospérer pendant la Grande Dépression des années 30. Il va même agrandir son magasin, parce que là, autour de lui, sur la rue Saint-Joseph, il y a des commerces qui sont pas capables de survivre. Alors, il les achète, puis il agrandit son magasin comme ça. Puis avant longtemps, il réussit à prendre tout l'espace entre la rue Saint-Joseph et le boulevard Charest. La rue Saint-Joseph, dans le fond, c'est l'ancien Maille Saint-Roch. Mm-hmm. Alors, oui. c'est parallèle à Charest. Alors, lui, là, en achetant les petits commerces qui fermaient un après les autres, il a réussi à prendre tout l'espace. Puis bientôt, il va faire tout le quadrilatère, qui est complété par la rue Dupont et la rue Monseigneur Gauvreau. Alors, le magasin Pollack fait tout ce quadrilatère-là. Quand il a fermé en 1978, là, c'était ça qui... C'était l'endroit où il était situé. Puis il est à 5 étages. Alors, il est imposant. Là. Le Pollack, là, c'est la grosse affaire à Québec en termes de magasins à rayons. Puis en 1950, il va le moderniser. Puis là, il devient la référence. Des escalateurs, des ascenseurs qui s'arrêtent automatiquement à chacun des étages. C'est vraiment le nec plus ultra. Puis sans oublier ses grandes visites, vitrines qui étaient illuminées 24 heures sur 24. Alors lui, dans le fond, là, il y avait linge était dans la vitrine, puis c'était illuminé tout le temps. Alors tu passais là, puis tu voyais qu'est-ce que tu pouvais acheter chez Pollack. Aujourd'hui, là, les vitrines de magasins, là, c'est acquis, mais dans cette époque-là, c'était wow, c'est donc bien extraordinaire, ça. Mais c'est M. Pollack qui avait lancé ça ici. Mais plus qu'un homme d'affaires, M. Maurice Pollack a laissé sa marque comme philanthrope. Il va financer la construction de la première synagogue de Québec, coin Crémazie-Salaberry, au début des années 50. Maintenant, c'est le Théâtre Périscope.
Ah oui, oui, oui.
Le Théâtre Périscope, c'est l'ancienne synagogue de Québec. Il va faire un don de 25 000 $ à l'Université Laval à la fin des années 50. Puis il y a un pavillon qui va porter son nom. 25 000 $ fin des années 50, là.
C'est de l'argent.
Ouais, c'est un beau petit mouton. Puis tout ça malgré le fait que l'antisémitisme des années 30 avait fait de lui une cible. Parce qu'à cette époque-là, les Juifs et leur commerce étaient mal vus.
Ben oui.
Dans les pires années, on retrouvait des éditoriaux recommandant aux Québécois d'éviter leur commerce. Les publications d'Adrien Arcan, le nazi canadien, là, celui qui avait fait un parti qui ressemblait au parti nazi allemand, là, eux autres étaient particulièrement virulents dans leurs éditoriaux.
Ben, c'est que c'était, entre guillemets, les Juifs avaient l'argent, justement, ils étaient vus comme étant radins, puis gardant leur or rien que pour eux autres, puis les petits Canadiens français n'en avaient pas.
Puis le commerce et l'Église catholique, ça faisait pas bon ménage. Ouais, là, ouais, alors, tout était... Tous les éléments étaient rassemblés pour faire de lui une cible. Mais M. Pollack avait instauré une atmosphère conviviale dans son magasin qui plaisait aux gens, qui était tout le temps là. C'est lui, souvent, qui accueillait les gens qui venaient là. Et surtout, ses prix étaient bas. Alors, les gens, là, dans ce temps-là, là, les gens n'avaient pas autant d'argent. Alors, ils allaient magasiner chez Pollack. Alors, Maurice Pollack décède en 1968 à Québec. Il avait 83 ans. Son commerce va lui survivre 10 ans, victime de la désertion du centre-ville pour la banlieue. Même s'il y avait pignon sur rue à Sainte-Foy, là, à Place Bellecour, l'ancêtre de Place de la Cité, si vous voulez, Pollack n'a pas survécu. Maintenant, on parle de Marcel Adams.
Oui, lui, les galeries de la capitale.
Ouais, lui, son histoire est vraiment incroyable. C'est un monsieur qui est né en Roumanie en 1920. Oui. Son vrai nom, c'est Mir Abramovici. Son père est tanneur et il s'initie au métier étant jeune. Mais surtout, il aide son père à vendre les peaux d'animaux. Puis c'est lui qui allait sur la route. Donc, comme M. Pollack, c'était un pédaleur.
Un pédaleur de marchandises sèches.
Et voilà. Et puis bien souvent, il revenait avec plus d'argent que son père exigeait pour les peaux. Mettons, son père, il disait, ben regarde, ces pots-là, pas en bas de 20$. Fait que lui, il arrivait, il dit, finalement, je les ai vendus 30$. Il réussissait à faire okay, plus d'argent.
C'est ça. Fait qu'il y avait la fibre.
Ouais, il y avait le don, là, d'être négociateur. Puis pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Juifs roumains sont contraints aux travaux forcés par leur gouvernement. Alors lui, il a été là-dedans. Il a été un peu chanceux parce que les Roumains, contrairement à d'autres pays, ils n'ont pas permis aux Allemands de prendre leurs Juifs puis de les amener dans des camps de concentration. Ils les gardaient pour eux autres puis ils les faisaient travailler, là. Ils travaillaient dur, là. Puis M. Adams l'avait expliqué à un moment donné, là. Il dit souvent, il oubliait de nous donner à manger. Puis le travail était dur, alors c'était pas facile.
Il y avait pas mal leur propre camp de travail.
Ouais, 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 c'était un camp de travail, là. C'était pas un camp d'extermination.
Parce qu'oublie pas que, autant en Allemagne nazie qu'en Pologne, en Autriche, il y avait les deux. Il y avait des camps d'extermination, il y avait des camps de travail. Mais dans les camps de travail, ils faisaient travailler pour vrai. Du travail épouvantable. Avant de les envoyer, les camps de la mort.
C'est parce que souvent, les camps de concentration, les camps de la mort, il y avait un tri qui se faisait à l'arrivée. Ceux qui étaient aptes pour le travail, vous allez d'un tel côté. Ceux qui n'étaient pas aptes, vous allez de l'autre côté, puis on ne les revoyait jamais, eux autres. En Roumanie, ça ne se passait pas comme ça. Quoi qu'il y ait eu des pogroms, puis il y a eu des massacres de Juifs là aussi. Alors bref, lui, en 1944, il réussit à se sauver de là. En passant par la Turquie, il gagne la Palestine. Puis il est là lorsque l'indépendance d'Israël est acquise en 1948. Puis il participe à la guerre d'indépendance. Puis il va s'installer en France pendant quelques temps pour aider les Juifs européens qui désirent émigrer vers Israël parce qu'il parlait déjà français, lui, à ce moment-là. La langue roumaine, c'est un peu parent. Il y a une parenté avec le français. Là. Ça descend des langues latines. Mm-hmm. Alors, il avait réussi à apprendre le français. Alors,
oui, Vez, il parle tellement bien latin qu'il parle même roumain, ça a l'air.
Oh, facile.
Ah, Vez. Abemus.
Abemus papam.
Papam. Puis parapapam, pam. Toute la patente.
Parapapam, pam.
Qu'est-ce qu'on disait?
Alors, Monsieur Adams débarque à Québec en 1951, puis il décide de s'y installer. Pendant 4 ans, il va travailler pour un tanneur d'ici, puis il refait ce qu'il faisait avec son père. Il est excellent vendeur, alors il réussit à se ramasser un petit peu d'argent. Puis c'est à ce moment-là qu'il va changer son nom. Puis c'est son patron qui lui a dit, « Bon, écoute-toi là, là, il faut que tu raccourcisses ton nom. Ça prend trop de temps à épeler quand t'es au téléphone. Tu me coûtes... les billes d'interurbain sont beaucoup trop élevées. » Alors à partir de ce moment-ci, là, Abramovici, oublie ça, tu t'appelles Marcel Adams. Il a dit « OK ». Puis il a même changé son nom légalement pour Marcel Adams à un moment donné. Puis il va se lancer dans l'immobilier là au bout d'à peu près 4 ans. Il a acheté des terrains, lui, puis il construisait des édifices à logement dessus. Il a fait ça dans le secteur de l'hôpital L'Enfant-Jésus. Okay. Puis il va acheter son premier édifice en 1955, le 580 de la Grande Allée Est. C'est de l'autre côté de la rue de la Chevrotière par rapport au Dagobert. T'as le Dagobert, t'as la rue de la Chevrotière, puis de l'autre côté, t'as une bâtisse
à bureau. C'est une bâtisse là?
Je sais pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans, mais c'est encore des bureaux. Lui, ce qu'il a fait, c'est
pas l'édifice Marie Guyard.
Non, Marie Guyard, c'est en arrière, ça.
Ok, c'est
là, sur la grande allée. Chevrotière,
excuse-moi.
Sur la Chevrotière. Des communications, là. Là où a déjà été CITF dans le temps.
Ça se peut. Ça se peut. Okay, que ce soit
il n'y a pas un bar resto bar sur le coin là.
Le Chichaouk, place de la. Oui, c'est Beyrouth Grande Allée là. Ah oui, c'est le restaurant Chichaouk sur le coin.
Ça se peut.
Sûr à 100%.
Le 580?
Oui, demande-moi de situer les restos Chichaouk, là, je suis capable.
Alors, c'est en face du Concorde ou à peu près, là.
C'est ça. Mm-hmm.
T'as le Dagobert, t'as la rue de la Chevrotière, puis t'as ce bâtiment-là.
C'est ça.
Et d'ailleurs, il y avait des... c'était un édifice d'habitation, cet édifice-là. Puis lui, il a commencé à sentir le vent tourner, puis il en a fait un édifice commercial. Puis c'était un des premiers dans ce secteur-là qui devenait commercial. Puis il y a eu le flair, M. Adams, parce que tranquillement, là, d'autres édifices comme ça ont poussé autour. Puis il a fait de l'acquisition d'autres terrains autour de ce bâtiment-là, dont celui où sera construit le Concorde. C'était à lui, ce terrain-là.
Ah ouais.
Puis il l'a vendu, puis le Concorde a poussé dessus. En 1958, il fonde sa propre compagnie. Ça s'appelle Iberville Développement. C'est une compagnie qui est toujours en activité, dont le siège social est à Montréal. Parce que monsieur Adams, à un moment donné, il a déménagé à Montréal. En 1966, il est parti de Québec pour aller à Montréal. Puis la compagnie, comme je vous dis, existe encore. Son site Internet est d'une grande sobriété. Il n'y a vraiment pas grand-chose là-dessus. Mais on y apprend qu'elle possède plus de 8 millions de pieds carrés dans l'est du Canada et aussi aux États-Unis. C'est beaucoup d'édifices commerciaux, là, des centres d'achat. Il y en a beaucoup qui appartiennent à cette compagnie-là.
Notamment les Galeries de la Capitale.
Ouais, parce que M. Adams a ouvert le centre commercial La Canardière en 1960. Le premier centre commercial qui ouvre, c'est celui-là, mais c'est pas le premier à Québec. Le premier, c'est Place Sainte-Foy en 1958. Puis d'ailleurs, lui, il reluquait ces terrains-là, mais c'est finalement Steinberg qui va les acheter et qui va construire Place Sainte-Foy dessus. Alors lui, il va se rabattre sur des terrains des Galeries de la Canardière.
Steinberg, ça doit être un juif, ça aussi.
Oui, c'est ça. Ah, oui. Alors eux autres aussi, ils avaient senti qu'il y avait des affaires à faire dans ce coin-là. Alors ils ont damé le pion à M. Adams pour Place Sainte-Foy, mais lui, il s'est repris avec les Galeries de la Canardière. Mais il est davantage connu pour l'érection des Galeries de la Capitale, ouvertes en 1981, qui à l'époque se situait au milieu de nulle part. Il n'y avait rien, là. Rien. Ben pas d'habitation, là. T'étais dans le champ, c'est le cas de le dire. Puis c'était un concept innovateur avec le Mégaparc qui n'a pas ouvert immédiatement, là. Ils l'ont construit par la suite. Mais quand même, En peu de temps, il va devenir le centre commercial le plus fréquenté à Québec. Alors lui, il avait vu quelque chose. Faut dire que ces gens-là, des Juifs, il y en a partout. Alors eux-là, ils sont connectés avec des gens qui sont dans les grandes métropoles. Alors avant nous, ils voyaient venir
qu'est-ce qui se passe ailleurs, qu'est-ce qui se fait dans les grandes villes, les modes.
Lui, il s'est dit, ça va s'agrandir, je vais m'installer là. Puis, je sais que t'aimes beaucoup Fields of Dreams, Vez.
Ben oui.
Ben, Build It, They Will Come, là.
Ouais.
C'était un peu ça qu'il a fait avec les galeries de la capitale. Puis, il a eu raison parce que ça s'est développé autour de ça. Outre les galeries de la capitale, sa compagnie est aussi propriétaire des galeries de l'Estrie à Sherbrooke. À sa mort, en août dernier, à 100 ans, sa fortune était évaluée à 1,6 milliard de dollars.
Hey, monsieur Seigneur!
Alors, il est parti de pas grand-chose quand il est arrivé ici à Québec en 1951. Puis quand il est mort 70 ans après, ben, il était milliardaire.
Des milliardaires à Québec, y en a-tu tant que ça?
Il y a Vez.
Bon, après Vez et le monsieur...
Je
serais curieux de voir. Parce que
il n'y en a pas beaucoup. Je sais qu'un, je sais pas s'il l'est encore, mais Germain Lamongue là, de Expo. Lui, il l'était, mais est-ce que ses affaires ont assez prospéré pour qu'il le demeure? À part lui, là, je pense que c'est le seul. À Québec, je pense que c'est le seul.
Pivez.
C'est ça.
Pivez.
Oh, oui.
Merci, François.
Ça fait plaisir. Hey,
mais si l'histoire de la région de Québec vous intéresse, il y a une page de Facebook qui s'appelle Souvenirs de la ville de Québec. Puis il y a plein de vieilles photos qui sont postées là-dessus par les membres de cette page-là. Puis il y a souvent des photos des galeries de la capitale après leur construction. Puis tu vois l'autoroute du Vallon qui s'appelait dans le temps, c'est Robert Bourassa, mais il n'y a rien autour. C'est dans le champ, c'est à la campagne des galeries de la capitale. Puis comme tu dis, they build it and they came.
Ouais, et voilà. Ouais.
Merci François. On a réponse 580 Grande Allée, c'est des bureaux d'avocats.
Ah.
Ben, il y a plein d'affaires là-dedans, effectivement.
Mais c'est une bâtisse qui appartient à Mac. Les immeubles, là.
Ah, okay. Mais ça a déjà été la maison de la communication, quelque chose comme ça. Puis le CITF, qui est maintenant Rouge FM, là, je sais pas trop.
Ils ont déjà été là.
Ça a déjà été là, oui, avant de déménager à Place Duville.
Et on salue Mario Pouliot. Pourquoi? C'est un auditeur, en fait. Je sais pas si Mario Pouliot est toujours vivant, je sais pas trop. Mais il dit, mon père Mario Pouliot a été le premier directeur aux Galeries de la Capitale.
Ah bon?
Crime.
Fait que c'est ça, ben bonjour, salutations à vous. Il est maintenant un ami de l'émission.
Officiellement.
Le sieur de Terrien, mesdames, messieurs, on s'en reparle la semaine prochaine, dimanche, en théorie.
On revient aux bonnes habitudes.
À 8h30. As-tu déjà choisi ton sujet de chronique ou ben t'es-tu
pas
ouvert
encore
aux suggestions?
Oui, je suis ouvert aux suggestions. J'ai une vague idée, peut-être que je vais le faire sur François-Xavier Garneau.
Bien
plus qu'un cégep.
J'adore ça.
Jusqu'à 10h, vous écoutez Que Québec se lève.